Bonjour à celles et ceux que... Bon, j'ai pas dit bonjour ce matin. L'ironie est une manière de parler qui consiste à dire le contraire de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut faire entendre. Parfois, l'ironie est intentionnelle, c'est-à-dire que la personne qui use de ce langage est très consciente de la situation. Par exemple, si un jour un responsable d'une louange, enfin de la louange, vient vers moi et me dit « Julien, tu chantes très bien, merveilleusement bien », bien, étant donné le désastre vocal que j'incarne, elle fait preuve d'ironie. On a l'exemple de Job qui souffre énormément et il répond avec ironie à ses amis. En vérité, à vous tout seul, vous êtes tout le genre humain. Avec vous mourra la sagesse. Quand on lit ces versets, on comprend que Job dit cela avec l'intention de signifier l'inverse. Ils n'ont pas cette sagesse universelle qu'ils prétendent avoir. Parfois, l'ironie n'est pas intentionnelle. Dans le livre d'Esther, par exemple, Aman est furieux contre Mardoché, qui refuse de se prosterner devant lui. Alors, dans sa colère, il dresse une potence de plus de 20 mètres pour faire pendre Mardoché dès le lendemain. Mais ironie du sort, c'est Aman qui se retrouve pendu le lendemain. L'ironie peut être cruelle ou extrêmement comique. Elle a le pouvoir de mettre en relief une situation, elle donne de la couleur au récit, elle attire l'attention de l'auditeur ou du lecteur. Et parmi les auteurs du Nouveau Testament, Matthieu et Jean sont ceux qui usent le plus souvent de ce type de langage. Dans le chapitre 27 de son évangile, Matthieu parle de la croix. Et l'auteur utilise l'ironie pour présenter quatre vérités sur Jésus-Christ. Alors j'ai choisi comme titre du message de ce matin, l'ironie de la croix. Replaçons le contexte. Jésus-Christ a exercé son ministère public depuis 3 années. Mais il est devenu l'ennemi public numéro 1. Les autorités politiques et religieuses s'acharnent sur lui. Jalousie, crainte de sa popularité, peur d'un soulèvement. La solution, il faut l'éliminer. Alors on organise un tribunal bilan, on le déclare coupable de trahison et on fait tout pour que le gouverneur Ponce Pilate prononce la sentence d'exécution, crucifixion. Et en Matthieu chapitre 27 et verset 27, la peine de mort est déjà prononcée. La croix s'approche. C'est à partir de ce verset que le récit est marqué par l'ironie. Donc je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Et nous lirons jusqu'au verset 50. Matthieu chapitre 27, les versets 27 à 50. Allez, je prends même le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau de la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 32. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifiait « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête. en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Eli !» Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Fin de lecture. Quelles sont ces 4 vérités que Matthieu veut mettre en relief? La première vérité que nous découvrons, c'est que l'homme dont on se moque est bel et bien le roi. C'est notre premier point. La victime est bel et bien le roi. Le 6 mai 2012, dans un car, un homme de 28 ans subit le rituel d'intégration de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui consiste à pincer et à mordre la victime, puis à badigeonner du baume du tigre sur les plaies sanglantes. Au milieu de 31 personnes, le jeune homme se révolte. Humiliation, viol collectif. La scène est filmée avec un téléphone portable. C'est une histoire terrible. Aujourd'hui, le bizutage impacte la plupart des milieux sociaux. Ce n'est pas le dernier cas, et c'est loin d'être le premier. Dans les versets 27 à 30, il faut bien imaginer la scène. Toute la cohorte est présente, ce qui représente 500 à 600 soldats romains. D'habitude, on fouette le prisonnier avant de l'emmener au supplice final de la croix. C'est alors qu'on présente Jésus-Christ. Il a été flagellé une première fois, mais là ça dérape, ça va trop loin. C'est le plus grand bizutage collectif qu'un homme ait subi. 500 hommes encerclent Jésus-Christ. Il le dépouille de ses vêtements. On lui crache dessus. On l'insulte. Les impacts sont nombreux. Gifles, coups à la tête. Les soldats frappent à coups de roseaux épineux. C'est un bizutage extrême que Jésus est en train de subir. Cette scène est bouleversante. Moi, elle m'a bouleversé personnellement. Parce que combien de fois dans ma vie, j'ai pu me retrouver à la place de ces soldats? Et combien de fois, nous aussi, on peut se retrouver à encercler une personne? Méchanceté gratuite, acharnement contre une personne, tous contraints, violence physique, verbale, ou même dans le fait d'ignorer une personne, une mise à l'écart dans le but de faire mal, attitude impulsive, insulte à tout va, que j'en sois le moteur ou que je sois sous l'influence négative d'un groupe d'amis, question: quelle influence ont tes amis sur toi? Ça peut même arriver dans une famille, quand on pense au frère de Joseph, qui, voulant sa mort, le jette dans une citerne avant de le vendre à une caravane d'Ismaélites. Dans chacune de ces situations, je prends et tu prends la place de l'un de ces 500 soldats qui encerclent Jésus-Christ. Dans Proverbes chapitre 22, nous lisons « Ne fréquente pas l'homme de colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. » Pour Jésus-Christ, l'humour de caserne continue et prend une autre tournure. Les soldats lui mettent un manteau rouge écarlate. Ils lui enfoncent une couronne d'épines sur la tête. Et en guise de sceptre, on lui donne un roseau dans la main droite. Il se prosterne devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» On donne à Jésus-Christ tout le déguisement d'un roi et on fait comme s'il était roi. Mais la victime, Jésus-Christ, est bel et bien le roi. L'ironie se met en place. Elle s'exprime à 2 niveaux. Tout d'abord, Les moqueries des soldats sont intentionnellement ironiques. Lorsqu'ils disent « Salut, roi des Juifs », ils veulent dire exactement le contraire, selon eux. Pour eux, ce n'est pas un roi. Ils se sentent à ce moment-là les plus rigolos du monde. Mais l'ironie de l'ironie, alors que ces soldats rabaissent Jésus-Christ sans savoir, leurs paroles expriment la stricte vérité. Jésus-Christ est bel et bien le roi. C'est précisément ce que communique le passage. L'homme dont on se moque en le déclarant roi est bel et bien le roi. C'est le thème principal de l'évangile de Matthieu. Le tout premier verset de son évangile nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». C'est le roi annoncé par les prophètes. C'est lui la promesse. Les mages du chapitre 2 posent cette question « Où est le roi des Juifs qui doit naître ?» Jésus-Christ commence son ministère et ne cesse de parler sur le royaume en se présentant lui-même comme le roi. Pilate lui pose la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Réponse « Tu le dis. » Dans notre passage, au verset 37, le Titulus, c'est-à-dire le chef d'accusation, le rappelle « Celui-ci est le roi des Juifs. » Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Oui, l'homme que l'on déguise est bel et bien le roi. Mais quel genre de roi est Jésus-Christ ? Jésus-Christ prévient ses disciples en leur disant, en Matthieu chapitre 20, « Vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les plus grands abusent de leur pouvoir sur elles. C'est-à-dire que les rois de ce monde exercent leur autorité motivés par une soif d'avancement personnel, motivés par un désir de prééminence, motivés par un titre et des droits qui vont avec. À l'opposé, le roi Jésus-Christ règne dans une justice parfaite, sans favoritisme. Il exerce son pouvoir dans une communion à Dieu, dans une obéissance parfaite et joyeuse à Dieu. Il est à la fois le libérateur et le protecteur de son peuple. Il se soucie de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Autrement dit, il recherche le bien de tous ses sujets, ce qui le mène forcément à la croix. La Bible dit que le roi Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais il vient pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà pourquoi Pilate n'arrive pas à cerner Jésus-Christ. Il n'a pas les prétentions des monarques de ce monde. Jésus-Christ lui dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous savez, le chapitre 2 de Philippiens nous éclaire. Ces soldats pensent l'avoir dépouillé, mais l'ironie se précise. Lui, Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, lui qui était égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Ces soldats pensent l'humilier à coups de moquerie et de multiples coups, mais l'ironie encore. Jésus-Christ s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ces soldats s'amusent à s'agenouiller devant Jésus-Christ, mais ironie du sort encore une fois, un jour, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'homme dont on se moque, la victime, est bel et bien le roi. La suite du texte nous oriente vers une seconde vérité, c'est notre deuxième point. L'incapable est bel et bien le Tout-Puissant. L'incapable est bel et bien le Tout-Puissant. Savez-vous ce qu'est un aidant familial ? Vous avez entendu parler de ça ?
Oui, un petit peu.
C'est une personne qui vient en aide bénévolement, en partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage ou de sa famille. Alors que ce soit pour les activités quotidiennes ou autres, on aide ainsi les seniors, les personnes handicapées ou malades d'Alzheimer par exemple, des personnes devenues impuissantes face aux tâches quotidiennes. Prenons le verset 31. Le prétoire résonne des rires moqueurs des soldats. Puis ils se lassent de ridiculiser Jésus. Ils le rhabillent et le conduisent au lieu de crucifixion, Golgotha. On peut donc se poser cette question, Jésus-Christ aurait-il besoin d'un aidant familial ? Parce que Matthieu peint maintenant le portrait d'un homme impuissant, incapable. Il faut l'aider pour porter sa croix. Simon de Cyrène serait-il l'aidant familial ? Il faut lui donner à boire. Et en plus, il refuse de boire. On partage ses vêtements sans qu'il puisse rien faire. Il faut même le garder, le surveiller. Les passants blasphèment devant lui sans la moindre réponse de sa part. Il est difficile d'imaginer un portrait plus impuissant que celui que l'on observe. Mais quelle est l'intention de l'auteur? On va essayer de comprendre. Une histoire est racontée dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel. Le roi David ramène l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est un grand moment de joie pour David et le peuple. Il y avait toutes sortes d'instruments, des sacrifices. C'était un vrai culte en mouvement vers Jérusalem. Et David dansait de toute sa force devant Dieu. Et de retour dans sa maison, pour David, c'est la douche froide. Michal, sa femme, lui dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien sans avoir honte. » L'ironie est placée là pour dire tout le contraire de ce qu'elle pense. Elle veut plutôt lui dire « Honte à toi, David !» L'ironie